RFI, grand reportage.
La plupart de nos patients sont des populations clés. Les populations clés, quand je dis, ce sont les professionnels de sexe, ce sont les HSH, c'est-à-dire que c'est des hommes qui ont des relations avec des hommes. Et une fois qu'ils sont là-bas, ils sont regardés par tout le monde à l'hôpital. Et ça, ça les touche. Et parfois même, il y a des médecins qui refusent de les accueillir. C'est des populations qui sont très, très difficiles et c'est un groupe fermé, en fait.
Nous sommes en Mauritanie auprès des personnes touchées par le VIH. Durement réprimées et criminalisées dans cette république islamique, elles sont souvent exclues du parcours de santé classique. Les associations communautaires sont alors essentielles pour faire de la prévention et de la prise en charge des personnes séropositives. En Mauritanie, une lutte ciblée contre le VIH, c'est un grand reportage de Théa Olivier.
De larges meules broient les pierres extraites à plus de 80 km de la nouvelle ville minière et poussiéreuse de Chami dans l'espoir de trouver de l'or. Autour, des orpailleurs venus de toute la Mauritanie s'activent sous le soleil brûlant. Porter les sacs, concasser les pierres, vider la boue à coups de pelle, traiter l'or avec du mercure. Ces ouvriers travaillent 12 heures par jour et habitent sur place dans de petites baraques en tôle. Parmi eux, Omar, 19 ans, originaire de Nouakchott, il travaille ici depuis un an et demi.
Je suis venu ici pour avoir du boulot, me construire et pour créer un meilleur avenir. Je suis venu seul, ma famille est à Nouakchott et je suis célibataire.
Et comment ça se passe alors de vivre comme ça, entre hommes, sur un site d'orpaillage? C'est spécial, non?
Parfois, je descends en ville pour voir les femmes qui sont là-bas, pour s'amuser un peu, parce qu'ici, je ne vois pas les filles. Pour les grosses et les plus âgées, on leur donne 300 ouguillas, mais les plus fraîches, on donne 400 à 500 ouguillas, soit entre 7 et 12 euros environ. Tout le monde prend les préservatifs ici. On est conscient du danger du VIH. Ce sont les travailleuses du sexe qui ont les préservatifs.
Ces préservatifs sont distribués par l'association mauritanienne SOS Père Éducateur. Leur cible, les populations clés, soit les professionnels du sexe et les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Car en Mauritanie, comme dans beaucoup de pays, l'épidémie de VIH est concentrée chez ces populations lourdement discriminées et criminalisées. 23,4% des homosexuels et 9% des travailleuses du sexe vivent avec le VIH, alors que le taux de prévalence n'est que de 0,3% dans la population générale. Amadou Diop, professeur installé depuis 2016 à Chami, est aussi relais communautaire. Il connaît tout le monde dans cette ville de 13 000 habitants, sortie du désert en 2015.
Là, par exemple, on peut trouver des PS, des professionnels de sexe, qui viennent, par exemple, avoir leur activité le matin, normal, une activité de restauration le jour. Après, ils passent à autre chose. Ouais, les orpailleurs, ce sont eux les clients. Si les PS se sont installés ici, c'est parce qu'il y a eu l'arrivée de ces orpailleurs. Quand tu mets 2 mois ou 3 mois ou 4 mois dans un milieu d'hommes, que tu es avec des hommes, et certainement, quand tu as de l'argent et tout, tu auras des envies aussi sexuelles. Et c'est pour cela que les professionnels de sexe se sont venus s'installer ici.
Amadou Diop nous emmène ensuite de nuit à l'abri des regards dans un petit restaurant en tôle qui s'avère être aussi une maison close.
Ça va très bien. Assieds-toi, Diop.
Vous allez bien?
Ça va, Amdoullah. Ça va. Très bien.
Assise sur une natte à l'extérieur, Zeyna, la gérante, raconte comment elle a été sensibilisée au VIH grâce à l'association SOS Père Éducateur.
Chaque un mois, tu fais ton test, tu fais regarder encore ton sang pour que tu défendes ton corps parce que c'est une maladie grave. Les gens, elles nous aident, elles nous donnent les médicaments, elles nous donnent les préservatifs, mais ils ne sont pas autorisés. Si on trouve ça avec toi, c'est une preuve. De prostitution, avec des relations de jeunesse, tout ça, on dit que c'est preuve. C'est un délit. Tu peux partir jusqu'à la justice.
Et vous, personnellement, vous avez déjà eu un problème?
Ah, franchement, parler, c'est beaucoup. On ne peut pas parler tout.
En Mauritanie, les relations sexuelles en dehors du mariage, si tu n'es pas marié, c'est interdit, c'est ça?
On dit que c'est la République islamique. C'est ça? On dit que c'est haram, comme on dit les Mauritaniens. Normalement, même si c'est la République islamique, il y en a des jeunesses, il y en a des filles, il y en a des gens. Nous tous, on ne se connaît pas. Ce qui est dans leur corps, c'est normal qu'on prenne les préservatifs. Même si tu le connais. C'est pas normal que tu couches avec lui sans préservatif. Parce que si même si elle n'est pas accepté ça, on le dit dehors.
Durant cette discussion, jamais Zaina ne mentionne directement son métier. Amadou Diop explique pourquoi.
C'est pas seulement un restaurant, c'est une maison couleuse. La parole, elle ne sera pas directe. La parole peut être directe entre elle et ses employés, mais pas en présence d'un père.
Pourquoi cette parole, elle ne peut pas être directe même avec vous?
Peut-être c'est aussi un signe de respect par rapport à nous et que certains mots, elle ne voudrait pas nous le dire. Parce que, bon, peut-être à la longue, peut-être que ces mots seront directs. Avant, c'est nous qui venions à chaque fois demander si elles avaient des nouvelles, si on faisait une causerie éducative, si on discutait un peu du VIH, si on discutait des infections et tout. Avant, c'est ça que nous faisions. Mais maintenant, c'est eux qui nous disent qu'ils ont des nouvelles. Et vous venez les dépister, venez les sensibiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a un avancement. On espère à la longue que cette confiance va durer et que l'entre-ligne ne sera plus là.
Depuis la ville de Chami, de petits bus brinque-ballant prennent la route d'asphalte qui traverse le désert jusqu'à Nouakchott, la capitale, à 235 km. Ils arrivent à la gare routière où SOS Père Éducateur a installé un kiosque de santé pour suivre les clients de prostitution, soit les orpailleurs, les chauffeurs et transporteurs. À l'intérieur, une natte, des coussins, une télévision et de quoi préparer le thé. Au fond, une porte mène à une salle plus confidentielle où les patients consultent pour des infections sexuellement transmissibles, les IST ou des dermatoses. Dans les quatre kiosques similaires de Nouakchott, les équipes font de la sensibilisation, des dépistages rapides et de la distribution d'autotests et de préservatifs. Autant de services gratuits, se félicite Rali Faval, superviseur d'un de ces kiosques.
Parce que les tests de VIH, c'est un peu difficile. Si on voit quelqu'un, il est intéressé. Il faut que tu fais avec lui des counseling pour le préparer moralement, pour l'accepter les résultats. Si quelqu'un il n'est pas bien préparé, c'est le counseling, il peut refuser son résultat. Il y a la famille, si quelqu'un est sida, pour lui, il est foutu. Les gens peuvent le rejeter, qu'il faut sortir de la famille. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur d'être stigmatisés. Parce qu'ils sont mal informés, ils pensent que le sida peut transmettre dans la vie courante. Ils ne sont pas informés que le sida peut transmettre sur la voie sexuelle, les voies sanguines, les mères dans son enfance, les trois modes de transmission.
Si une personne est testée positive, les acteurs communautaires l'emmènent au centre de traitement ambulatoire, le CTA, où sont prises en charge toutes les personnes vivant avec le VIH en Mauritanie depuis 2004. C'est là-bas que sont aussi distribués les traitements antirétroviraux et que l'on calcule si la charge virale est indétectable et donc que le virus ne peut plus être transmis. Le docteur Mohamed Val est l'ancien médecin-chef du CTA.
C'est à Nouakchott qu'on va trouver tout ça. Ce qui est charge virale, ce qui est dosage des CD4, c'est un Nouakchott. On a des patients qui viennent de 1200 km rien que pour faire la charge virale dans la capitale. Mais à l'intérieur, il y a des centres, mais c'est des centres qui ne sont pas très fonctionnels. Il y a une décentralisation de la prise en charge, mais qui n'est pas bien faite au fait. Les moyens ne sont pas là. Côté psychosocial, il faut le communautaire. Côté disponibilité, côté engagement, c'est mieux. Le communautaire est engagé plus que l'État au fait. Et puis ça permet à l'État de souffler un peu.
Mais c'est plus efficace?
Selon mon expérience, c'est plus efficace. Nous, même les visites à domicile, c'est la communauté qui peut le faire. C'est la communauté qui connaît la cartographie des patients. C'est un grand accompagnateur du VIH. Il faut avoir confiance en eux.
Sans jugement, les acteurs communautaires tentent de maintenir les personnes vivant avec le VIH dans le parcours de soins. Sur les 8178 séropositifs enregistrés au niveau national, seuls 3200 patients prennent encore leur traitement, selon Mohamed El Mouloud, membre actif du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH, REMA+.
Nous avons 60% de patients qui sont perdus de vue. La cause et que les patients n'ont pas le service qu'il faut. Et depuis 2015, que le Fonds mondial a dit qu'il ne finance plus les kits alimentaires, nous avons eu une très grande régression de patients au niveau des unités de prise en charge. Donc, on plaide pour qu'on puisse avoir des kits alimentaires pour ces patients et un moyen pour les transporter tous les 6 mois pour que les patients puissent venir faire la charge virale et prendre son traitement de 6 mois. On fait du mieux pour sensibiliser les patients sur l'observance du traitement parce que c'est le seul remède. Quand on prend bien le traitement, on n'a plus de problème, on devient une personne normale comme toutes les autres.
Ce travail de sensibilisation est plus efficace quand le message vient d'une personne vivant avec le VIH, explique Koumbassi, cuisinière et séropositive depuis 20 ans.
Mais depuis que je prends mes médicaments, je suis en forme. C'est pour cela, chaque fois, je lui donne le conseil, je vous donne mon exemple. Je dis, il faut toujours prendre vos médicaments, il faut toujours prendre soin de vous, comme être comme moi.
Ici, en Mauritanie, on a toujours des problèmes de stigmatisation, surtout avec les femmes. Tu sais, les femmes sont tellement faibles. Si, par exemple, tu n'as pas les moyens, tu risques d'aller de faire la prostitution. Si, par exemple, les gens savent que tu es séropositif, les gens te rejettent. Même il y a des femmes qui tombent en état de grossesse, tu pars au dispensaire pour faire la consultation ou bien les soins. Si on te sait que tu es PVH, on te refuse de faire les visites.
La stigmatisation est encore plus forte quand il s'agit de la communauté homosexuelle qui n'ose pas se rendre dans les structures de soins de peur d'être discriminée. Le code pénal punit de la peine de mort tout musulman majeur qui aura commis un acte contre nature avec un individu de son sexe. Une peine qui n'est pas appliquée mais qui effraie Shalehan, 25 ans, artiste et homosexuel qui a déjà été victime d'insultes et de violences. Rejeté par sa famille, il habite avec des amis de sa communauté dans un quartier populaire de Nouakchott.
يقولوا ان السبب اللي دائما هاو المثليين مسبب اني موت بين مهم شنو هنا اسم تهميش.
J'ai tout le temps peur, même pour la plus simple des maladies comme un bouton ou une infection. Je ne peux pas aller à l'hôpital et je vais le cacher, ce qui peut même amener des complications jusqu'au décès. C'est pourquoi nous, les homosexuels, nous avons souvent des IST, des infections sexuellement transmissibles, et on le cache jusqu'à ce que ça se développe et que ça devienne une infection parfois incurable. 50% des homosexuels de notre groupe sont bien protégés contre le VIH, car nous avons eu les informations nécessaires, on a assisté à des causeries éducatives et on prend le préservatif systématiquement. Même aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un préservatif.
Ça, c'est pour moi qui ai acheté ça aujourd'hui.
J'ai acheté un paquet il y a des 12.
Et alors là, les préservatifs, tu les as sortis, qui sont cachés sous une valise dans un placard. Pourquoi les cacher?
C'est très dangereux pour nous car la police vient nous arrêter sans raison. À plus forte raison quand nous avons des préservatifs avec nous.
Ce groupe de jeunes homosexuels fait un dépistage VIH tous les 3 mois au sein d'une association de quartier. Khatre, c'est son surnom, travaille chez SOS Père Éducateur. Il est aussi membre de la communauté homosexuelle. Il nous guide jusqu'au petit appartement d'As Sen, sénégalais homosexuel de 45 ans. C'est grâce à Khatre qu'il a osé aller à l'hôpital pour se faire dépister du VIH en 2013.
Mon corps là, ça me fait chaud chaque nuit après. Je vis Khatre, je l'ai expliqué, il m'a dit viens.
Lui, toujours il me fréquente.
Il m'a dit que viens, on part. Chez Docteur Fall. On est parti chez Docteur Fall. Après, Docteur Fall il m'a dit qu'il faut partir faire des analyses là-bas. Moi, je suis VIH/SIDA. Encore, je suis parti au CTA. Toujours, je prends mes médicaments gratuitement. Je n'ai aucun problème.
Khatre, lui, est fier d'aider sa communauté.
En tant que rare, il faut que, dès qu'on connaît vous êtes positif, on va t'amener à centre de traitement, traitement contre le VIH là-bas. Mais nous, on t'accompagne dans le soutien psychologique et médical dans les autres maladies. Dès que tu es allergique ou l'IST ou toute maladie, il n'y a pas de soins là-bas ou etc. Soit quel qu'il soit, s'il était homosexuel, FSF, c'est les femmes qui ont un rapport avec les femmes. Ça, c'est leur orientation. Ça ne nous concerne pas. Nous, on bagarre, on demande, on supplie la loi. Donner à toutes les gens leurs droits pour les santé seulement. Nous, on ne bagarre pas pour liberté, parce qu'on ne peut pas donner liberté de l'homosexualité à Mauritanie, République islamique. Moi, j'ai poussé le thème du VIH. Dès qu'on est ensemble, on prend ce thème, parce qu'il n'y a aucun complexe, parce que nous n'avons pas quelqu'un étranger qui va nous juger. Si on est tout dans une communauté HSS, on reste plus libre.
Mais sans le respect des droits humains, il est impossible d'atteindre l'objectif final de 2030 qui est d'éliminer le VIH-SIDA, explique Dr Mustapha Attir, représentant d'ONU-SIDA en Mauritanie.
Nous avons toute la liberté de pouvoir travailler avec ces populations, même si elles sont criminalisées. Et personne ne nous dérange pour leur donner les soins, offrir les services de prévention et de traitement. C'est vrai, nous n'affichons pas que nous demandons ouvertement avec des slogans les droits de ces populations. Et ça pourrait même irriter quelque part quelques-uns. Et bien sûr, à tous les niveaux, surtout le haut niveau, il y a le plaidoyer pour lutter contre la criminalisation de ces populations. Et sûrement, il y a des canaux diplomatiques et qui sont ouverts dans ce sens.
Abdelali Oulsidi Ali, du secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-SIDA, représente l'État mauritanien.
La Mauritanie tire son code pénal du droit musulman. La Mauritanie a signé des conventions universelles sur les droits humains. La Mauritanie est un pays démocratique et il y a donc une scission du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif et politique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ces peines appliquées. Au contraire, l'État veut pénétrer ces populations pour améliorer la riposte contre le VIH-SIDA.
Lutter contre le VIH, c'est aussi apporter des perspectives aux populations marginalisées. Couture, coiffure, informatique, autant de compétences acquises dans le centre de formation professionnelle dédié aux jeunes femmes de quartiers défavorisés de Nouakchott. Djibril Sy est président de l'association SOS Père Éducateur.
Elles sont dans les risques. Le problème, c'est que même si elles ne sont pas maintenant, si elles n'étaient pas accrochées à l'école, elles pouvaient tomber dans tout ce qui est, disons, tomber enceinte ou bien même être PS occasionnel, c'est dangereux pour elle, hein, pour plusieurs raisons, que ce soit le VIH ou bien autre chose, ou bien le viol, c'est un milieu risqué. À un certain moment, on a pris des professionnels de sexe et maintenant, elles ont changé carrément de profession.
C'est-à-dire qu'elles ont quitté le travail du sexe?
Oui, enfin, le travail du sexe, ce n'est pas un désir qu'on veut faire, c'est souvent à cause de l'argent. Qu'on est dedans. Et une fois qu'ils ont eu l'occasion de gagner de l'argent d'une autre manière, ce qui va les valoriser surtout, parce que le travail de sexe est dévalorisant socialement, et maintenant elles sont prêtes à quitter. Et d'ailleurs, on a eu certaines, et elles ont quitté carrément, et maintenant elles sont responsables dans leurs fonctions, elles ont pu s'intégrer ailleurs, et ils ont quitté ce travail parce qu'elles gagnent plus d'argent d'une manière acceptable socialement. Maintenant, avec nous, elles disent, voilà, il y a un autre chemin, il y a un autre choix, j'ai un autre choix, et c'est comme j'ai une deuxième chance.
Les bras souples qui passent au-dessus de la tête, de petits sauts en avant au rythme de la musique, les jeunes femmes sont concentrées sur leurs pas de danse, discipline développée pour leur redonner confiance en elles. Noura, 19 ans, a arrêté l'école 4 ans plus tôt. Elle respire de nouveau à l'idée d'avoir un avenir meilleur.
C'est un bon centre pour nous. Ça arrange toutes les filles qui n'ont pas de travail. Et on fait ici l'espoir aussi.
La danse?
Oui, je danse. Je sens la musique dans mon sang. Je me sens libre. Mon rêve, je trouve un autre travail qui aide ma famille et ma mère. Je rêve de le faire une grande maison et je l'achète en voiture et je le fais tout ce qu'elle ne peut pas faire dans la vie.
En Mauritanie, une lutte ciblée contre le VIH, un grand reportage de Théa Olivier, réalisation Pauline Leduc.